Bon, écoutez, je suis très heureux de venir réfléchir et échanger avec vous. Je m'appelle Henri Verdier. Ça fait 20 ans que je suis tombé dans le numérique avec passion et qu'on s'était donc un peu perdu de vue. Et après un parcours divers où notamment j'ai créé une entreprise de big data, donc si vous voulez on en parlera plus spécifiquement, où j'ai animé une communauté vibrante et passionnante qui s'appelle Cap Digital, qui est le pôle de compétitivité de la création numérique en Ile-de-France, donc avec des gens qui font des effets spéciaux pour le cinéma, des jeux vidéo, des robots, des web services, de la médecine, e-médecine, etc. Depuis 3 ans, j'ai rejoint l'administration et je travaille auprès du Premier ministre. D'abord, je m'occupais de l'ouverture et du partage des données publiques, l'open data. Et maintenant, je m'occupe plus généralement de notre informatique et de notre transformation numérique. Donc, ça amène tout de suite quelques précautions parce qu'on parle toujours de quelque part. Donc, je vais partager avec vous un récit d'acteurs engagés et concernés, j'espère, mais vous ferez vous-même la part des choses de ce que je crois parce que je le fais, ce que je fais parce que je le crois, etc. etc. Peut-être en très léger préambule, quand je t'écoutais quand même sur les biotech, il n'y a pas que le désir et la techno. En fait, entre les deux, il y a l'anthropologie, la norme sociale, etc. Et par exemple, pour ceux qui savent comment se passe une FIV, c'est pas demain la veille qu'on fera une FIV juste pour choisir la couleur des yeux d'un enfant. Quoi. Ça travaille le corps de la femme, c'est douloureux, c'est lourd, ça marche pas à tous les coups. Et ça se fait pas. Enfin, j'ai pas vu de FIV de confort autour de moi, et j'en ai vu beaucoup autour de moi. Non, mais ça reste quand même pas léger. Aujourd'hui. Peut-être que ça sera différent dans 10 ans, mais. Par rapport à votre jeu de rôle, à tous les deux, je suis ni pessimiste ni optimiste, parce que je pense qu'on vit un moment politique, un moment de combat politique. Alors moi je trouve ça joyeux, parce que c'est un nouveau terrain de jeu politique, et que l'histoire n'est pas écrite, et que c'est pour ça que ce genre de séminaire est important. Et ce qui est vrai aussi, vous avez fait beaucoup de références à la science-fiction et à la littérature dystopique, on a peu de repères en fait. Les sujets, alors moi je vais plus parler du numérique, hein. En fait, probablement, il y a eu 30 ans d'innovation qui a été portée par la science-fiction. En fait, on a appliqué le programme de la science-fiction. On relit Asimov aujourd'hui, on voit qu'on n'y est pas encore, d'ailleurs. Et puis, à part quelques incursions cyberpunk, il n'y a pas eu grand-chose sur ce que nous vivons maintenant. Quoi. Donc, on est un peu aveugle, ce qui est très bien. Ensuite, puisque je vais vous parler de ce qu'on fait, nous, pour transformer l'État, transformer l'action publique, posons tout de suite que l'État, c'est quand même gros et divisé. C'est pas du tout le Léviathan de Hobbes, l'État. Le ministère de l'Intérieur n'est pas d'accord avec le ministère de la Culture, qui n'est pas d'accord avec le ministère avec les Finances. Il y a des agents qui portent des agendas, qui se combattent, qui se contredisent. Et il ne faut pas croire qu'il y ait une espèce de plan très conscient, très cohérent. En fait, il charrie tout et son contraire. Il charrie les dangers et les résistances aux dangers dans la même structure. Et les agents publics que j'ai rejoints seulement il y a 3 ans ne sont pas tous serviteurs dociles de la parole politique et ils ont leur propre programme d'action. Ensuite, après je vais venir sur mes slides, mais je confesse aussi un parti pris, c'est que je vois beaucoup des dérives dystopiques dont vous parlez, et précisément, moi je suis rassuré à l'idée qu'il y ait des institutions qui soient créées pour être en charge, pour travailler à l'intérêt général. Ne croyez pas que j'en fasse un récit étatiste pour autant. Je crois que la société civile a des choses à faire, qu'on peut s'auto-organiser. Mais enfin, quand on voit l'emprise sur nos vies que prennent des entreprises dont l'objet social, c'est de créer de la valeur pour des actionnaires. L'objet social de Facebook, de Google, d'Amazon, ça n'est pas de faire du bien commun. C'est de faire du profit. Ils sont créés pour ça. C'est leur éthique et c'est leur morale. Moi, je suis rassuré de me dire qu'il existera d'autres institutions qui seront quand même consacrées à fabriquer de l'intérêt général. Donc je ne dis pas que l'État va bien, je ne dis pas que tout roule, je ne dis pas que tout est rationnel, tout est efficace, mais c'est son travail. Et de même, il faudra bien des organes pour qu'il y ait une puissance du public. Donc ce que devrait être le sens du mot puissance publique. Il faudra bien qu'il y ait des gens qui relaient notre projet collectif, notre projet de société, notre intérêt général, qui défend nos biens communs. Donc voilà, j'ai pas un parti pris de libertarien, contrairement à beaucoup de gens dans le monde Internet. Et, oui, mais j'ai l'impression. Ah, voilà. Bon, donc il faut que je parle au dernier, en fait, à ceux du fond. Très bien. Alors, je ne refais pas les prérequis, parce qu'on m'a laissé une demi-heure. Je me permets de revenir un peu en arrière. Peut-être que vous parlez de ça depuis des semaines, donc je vais faire très vite. Mais d'abord, on vit une transformation totale, brutale, rapide. En quelques années, Apple attrape le marché de la musique en laissant Baba, Sony, entreprise qui pourtant avait inventé et avait un quasi-monopole du CD et avait inventé le Walkman. Et eux, paf, ils arrivent, ils prennent la musique. Vous savez qu'en quelques années, Airbnb vend plus de chambres de nuitées d'hôtels que la chaîne Accor. Vous savez que 4 ans après la création de Uber, il y a des villes entières dans le monde entier où il n'y a plus un seul taxi, dont San Francisco où est né Uber. À New York, vous verrez encore des taxis, mais ce sont des fournisseurs de Uber. Et à Paris, il y a un Uber pour 2 taxis en 4 ans. On va pas épiloguer, on vit des changements qui arrivent à toute allure, que les acteurs en général ne voient pas venir, qui prennent tout le monde au dépourvu. Il y a aussi des changements beaucoup, beaucoup moins visibles et tout aussi importants. Amazon, par exemple, c'est quelqu'un qui a d'abord innové dans la logistique, qui a dit tout ce qu'on m'avait enseigné sur la logistique, qu'il fallait étiqueter les produits, faire des processus, j'oublie. Et ils ont appris à regrouper les paquets plutôt en fonction des fréquences de commandes et à faire tourner des petits robots dans des entrepôts géants. Ça, c'est un entrepôt Amazon. Donc vous connaissez le libraire en ligne, mais vous ne savez pas que derrière, il y a des gens qui ont changé toutes les règles du jeu traditionnel de l'industrie. Ça, c'est juste pour s'amuser. Globalement, l'armée, comme beaucoup d'organisations humaines du 19e siècle, c'était une manière de rendre le service, drôle de service que celui-là, mais une manière de rendre le service assez simple. Plein de gens avec peu de pouvoir en face du client, et puis une chaîne de commandement qui est une grosse pyramide, et un chef tout derrière qui décide. Aujourd'hui, l'armée, c'est 15 mecs en logistique pour un type au front, et ce soldat, ce Marines au front, porte sur lui 30 000 dollars de matériel, il a des lunettes de visée nocturne, il est aidé par satellite, il a des capteurs pour que des médecins surveillent son état de blessure ou pas à distance. Et on a totalement inversé la manière dont on rend le service. On a une pointe hyper armée, hyper entraînée, hyper outillée, hyper protégée, et qui est protégée par... En moyenne, c'est 15 types en logistique pour un type au front. Je vous en parle parce que ça va être vrai dans de nombreuses organisations, pas seulement dans l'armée. De même, alors vous avez tous vu qu'il y a 7 ans, et seulement 7 ans, Steve Jobs nous a offert le smartphone. Un des rares endroits où on a un peu résisté au smartphone, c'est quand Google a eu le culot de dire « je vais fabriquer un système d'exploitation pour que d'autres puissent faire des smartphones ». Donc c'est Android, et a dit « et je l'offre en open source à ceux qui veulent ». Ça a permis à Samsung de prendre la main et de vendre finalement plus de smartphones qu'Apple, sinon Apple aurait sans doute bouffé tout le marché du téléphone. Et ça a permis à Google de trouver une position très intéressante puisqu'eux, ils ont le monopole du marché des applications qu'il y a dans les téléphones Android. Et donc, ça va bien pour eux, merci. Je vous parle de ça parce que vous voyez peut-être dans la presse que Google teste avec succès depuis quelques années une voiture sans chauffeur qui pose des questions notamment juridiques passionnantes. Parce que qui sera responsable quand cette voiture écrasera une grand-mère? Mais c'est une autre histoire. Non, ça y est, la justice a dit que ce serait Google. Ce qui est très intéressant, si on pense comme moi, parce que c'est l'algorithme. Parce que c'est l'algorithme qui décidera qu'il vaut mieux accélérer ou freiner et que quelqu'un n'est pas attaché sur la banquette arrière et que donc tant pis, on ne freine pas, etc. Mais pour moi, ça redonne encore plus de pouvoir à Google parce que je pense qu'en fait, ils ne sont pas en train de faire des voitures, ils sont en train de refaire comme avec Android, de dire les fabricants de voitures seront les ensembliers et moi j'aurai le pouvoir, le pognon et le point haut stratégique. Et donc parfois c'est pareil, c'est une voiture ou un téléphone, mais la valeur est passée ailleurs et on n'a pas vu ce qui s'est passé quoi. Bon, ça c'était pour faire un clin d'œil d'ailleurs. Bon, ça c'est de la science-fiction, c'est Iron Man et ça n'est pas de la science-fiction. Donc toutes ces technologies effectivement entrent dans les corps. J'aurais pu parler de nanotechnologie, mais c'est moins facile à illustrer. Là, c'est des formes de prothèses ultra intelligentes et donc oui, la jonction de vos deux thématiques est faite. Elle est faite par la génétique, elle est faite par tout ce qui est du monde de la prothèse, etc. Et il y a même quand même quelques biohackers et quelques personnes qui travaillent leur corps comme des artistes. Enfin, il y a des mondes de geeks et de hackers qui sont en train quand même de commencer à envahir le monde du bio. Parce que c'est pas du tout un monde médical, en fait. Ils attaquent autrement. Voilà. C'est aussi, et vous y avez fait allusion, des changements culturels profonds. Donc globalement, là où je travaille, on nous a fait croire que l'informatique, c'était un peu ça, quoi. Des consultants propres sur eux, polis, bien élevés, qui vous vendent des lignes de code. En vérité, ça peut être ça aussi. Ça, c'est l'homme, Harper Reed, qui a fait réélire le président Obama à sa deuxième campagne. C'est le mec qui a créé une équipe de 40 personnes dans un bunker à Chicago et qui analysait tous les jours les réseaux sociaux pour décider ce que ferait le candidat Obama le lendemain, en disant est-ce qu'il va plutôt faire de la pub média, plutôt passer à la télé, plutôt faire tel meeting ou tel autre meeting. Il y avait une sorte de data mining permanent de la campagne. Et si vous êtes intéressé par cette campagne, moi elle m'a passionné, vous noterez que le président Obama a eu 50,1% des voix et 2/3 des grands électeurs. Ça veut dire qu'il a fait une stratégie parfaite, il était allé chercher seulement les voix qui comptent, que c'était super travaillé, super réfléchi. Et c'est ce Gugus-là qui a fait ça. Et j'en parle parce que dans beaucoup des endroits où je travaille désormais, on ne les recruterait pas, ces gens-là. On ne les laisserait pas rentrer. On dirait, c'est quoi ces espèces d'anarchistes bizarres, chevelus, tatoués. Donc, il y a des changements très profonds, culturels, d'attitude, de rapport au travail. Et moi aussi, j'aime bien parler de Pekka Immonen, qui a écrit le livre sur l'éthique du hacker que vous avez cité. Et qui montre que... Et alors tous ceux qui emploient des jeunes, d'ailleurs, en témoignent. Les gens, on voit arriver des générations qui ont un rapport au travail, à la hiérarchie, à l'organisation, complètement différent. Et qui, d'ailleurs, peuvent se révéler des travailleurs ardents et engagés, mais à condition qu'il y ait un bel enjeu, que la hiérarchie soit compétente et respectée, et qu'on les laisse prendre leurs responsabilités et une certaine autonomie. Donc ce n'est pas toujours ce à quoi les institutions étaient prêtes, et ce n'est pas toujours comme ça qu'elles travaillent. J'aime bien, alors ça aussi, c'est peut-être pour, à la frontière des deux sujets, pour montrer à quel point les temps ont changé. Ça, c'est un site assez sidérant qui s'appelle Patient Like Me, et où des gens atteints de maladies graves viennent partager leur dossier médical avec les communautés. Pourquoi ils font ça? Alors, revenez 10 ans en arrière, imaginez ça en France, il y a 10 ans, c'était impossible. Donc j'aime beaucoup cet exemple parce que je trouve que c'est un marqueur de l'époque que nous vivons. Et ils le font pour plusieurs raisons. Ils le font d'abord comme dans Doctissimo, quand on va chercher des groupes de gens qui ont un peu le même genre de problème que nous. Donc ça, finalement, ça existait avant Internet. Enfin, Doctissimo aussi, c'est Internet, mais ça existait sans partager le dossier médical. Mais ils le font aussi d'une manière qui est assez jolie, d'ailleurs, en disant, c'est pour fabriquer des cohortes pour que nos médecins travaillent plus vite. Donc vous savez que certains types de cancers, par exemple, peuvent avoir 7 ou 8 déterminants génétiques différents. Pour l'instant, la médecine traditionnelle travaille plutôt sur le cancer sans regarder s'il est provoqué par tel gène ou tel autre gène, etc. C'est parfois assez dur de faire la cohorte des gens qui ont exactement le même cas. Donc ils se disent, on va se regrouper, se rapprocher, se retrouver à 20, 30 et on va proposer tous nos dossiers médicaux à la science pour qu'elle travaille mieux. Et cette envie d'être acteur de son destin, de s'émanciper par le partage de données qu'on co-construit, etc., et de jouer un rôle tout en respectant d'ailleurs le savoir de la science. Je pense que c'est un truc qui est un très profond marqueur de notre époque. Donc ce site m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, cette espèce de révolution ultra rapide, j'aime bien d'abord dire que finalement, on a déjà vu ça dans l'histoire. C'est les moments de révolution industrielle. Peut-être vous l'avez déjà dit dans des séminaires... Alors moi j'aime bien l'illustrer, donc je dis allez voir au musée d'art moderne de la ville de Paris la toile de 1937 Raoul Dufy sur la fée électricité, où il a parfaitement saisi que ce qui pourrait apparaître comme un travail d'industriel, c'est le truc en bleu au fond là, donc des usines qui font de l'électricité, etc. C'est d'abord le fruit de toute une époque, de la science révolutionnaire, d'un imaginaire, et ça stimule des révolutions qui vont bien au-delà de l'industrie. C'est le cinéma, c'est Paris-Ville-Lumière, c'est le pont Mirabeau. Et par exemple, pensez juste à ça, la bizarre école que nous avons vécue, vous et moi, celle de Jules Ferry, c'est un enfant de la révolution industrielle. On a 2000 ans d'histoire de l'humanité où on dit que pour apprendre, il faut se frotter à un grand maître. Et donc c'est l'atelier de Rembrandt, c'est la Sorbonne, donc le magistère parle un peu, et puis les élèves avec des répétiteurs apprennent à imiter le maître et à se hisser au niveau du maître. Et tout d'un coup on dit, on va les mettre par groupe de 30, les profs font une seule matière chacun, les cours dureront toujours une heure, même si on est en train de comprendre, tant pis, paf, c'est l'heure de l'allemand, t'arrêtes les maths. Cette espèce de organisation scientifique du travail, cette espèce de technique de pouvoir, c'est celle d'une époque, et donc c'est celle qui est née avec la révolution industrielle, plutôt celle d'avant, celle du charbon et de l'acier. Ça, c'est pétrole, électricité. Et donc, on aura les mêmes conséquences. C'est-à-dire, on aura aussi des techniques de pouvoir, des techniques d'organisation, des logiques d'action collective, une esthétique, un urbanisme, des rapports de force sociaux. La révolution charbon-acier, c'est aussi la naissance du prolétariat, parce que c'est la naissance des grandes usines, et c'est la naissance d'une finance. Et c'est donc des rapports de force politique aussi, et c'est la naissance du marxisme, etc. etc. Tout ça va ensemble, quoi. Donc je pense qu'on vit le même moment. Voilà, donc je fais vite. Mais dans ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est que le numérique dévore le monde. Alors, parfois, je prends le temps d'expliquer cette phrase de Marc Andreessen, qui est un type qui a énormément compté dans le numérique, puisque c'est le fondateur de Netscape, et puis le fondateur d'un des fonds d'investissement les plus prestigieux de la Silicon Valley, qui a financé Facebook, qui a financé Tesla, qui a vu arriver la plupart des choses qui ont changé le monde depuis 10 ans dans le numérique. Peut-être qu'aujourd'hui, comme ce n'est pas un sujet, je fais vite sur ce numérique qui dévore le monde, qui dévorera l'État, j'en suis convaincu. Lui, c'est Peter Thiel, c'est une autre des stars de la Silicon Valley. Et il y a un an, alors, je ne sais pas s'il l'a fait en fait, mais quand il y a eu une politique de visa un peu plus sévère en Californie, il a dit « Bon, ça suffit, j'achète un porte-avions, je le mets à 35 km des côtes, donc je suis en zone d'extraterritorialité, je mets 1000 startups là-dessus et comme ça, j'ai plus de problème de visa. Et je peux faire venir des gens du monde entier. » Donc ce sont des libertariens passionnés.
Il a fait ça ?
On a vu le moment où il a acheté le porte-avions, j'ai pas vu l'inauguration de... Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il faudrait un hôpital, une gendarmerie, qu'en fait il fallait refaire tout un état en fait, et que finalement autant prendre ce qui existait déjà, je sais pas. Et il y a une autre penseuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Carlota Pérez, et qui a beaucoup réfléchi sur ce double mouvement, donc ça sera la fin de ma première partie, en un quart d'heure, donc je suis dans les temps. C'est que toutes ces révolutions, c'est des défis incroyables pour les institutions. Elle les ébranle dans leur tréfonds, mais parfois par des détails idiots. Alors par exemple, je vous en reparlerai dans un instant, nous on se retrouve au milieu du conflit taxi contre Uber. Mais bon, les taxis, c'est une régulation d'une sophistication incroyable, dont certains textes remontent à Louis XIV, ils étaient destinés à empêcher les coches de crotter les gens dans les rues, et on a gardé les règles. Mais qui est quand même fondé sur un truc assez simple. C'est le taxi a une sorte de monopole d'occupation de la voie publique et il a un monopole de la maraude. C'est-à-dire que vous avez depuis longtemps le droit de réserver une voiture avec chauffeur à l'avance. Ça n'a pas attendu Uber. Mais héler quelqu'un dans la rue, c'est un privilège des taxis. Et donc avant, on savait quand même dans quel cas j'avais pris mon téléphone et appelé réserver une voiture la veille et dans quel cas j'avais attrapé un type dans la rue. Quand j'ai sur un écran la géolocalisation de tas de voitures et que je peux, d'un clic, appeler une voiture qui est à 30 mètres de moi, c'est de la maraude ou c'est pas de la maraude ? Et en fait, ce qui s'est passé d'abord, c'est que des catégories, en l'occurrence, c'est un exemple un peu idiot, mais il y avait une catégorie assez simple, on l'utilisait depuis Napoléon III. Si vous m'attrapez dans la rue, je suis un taxi. Si vous me réservez avant, c'est un véhicule avec chauffeur. Et tout d'un coup, on ne sait plus où s'arrête et la maraude et où commence la maraude. Et donc, les institutions sont ébranlées, et alors elles le seront encore plus quand on se paiera des trucs en bitcoin et qu'on ne saura plus comment prélever l'impôt, quand on arrivera avec un dossier médical meilleur que celui de l'hôpital, parce qu'Apple aura tracé nos données depuis 20 ans et nous aura même proposé un diagnostic. Donc, elles sont ébranlées par cette révolution. Et en même temps, elles sont indispensables à cette révolution. Et Carlota Pérez, elle parle de ça aussi. On aurait du mal à imaginer le siècle écoulé sans les institutions adaptées. Il faut voir par exemple le génie d'un fonctionnaire français qui a inventé la TVA. Parce que quand le capitalisme a commencé à se diversifier, qu'on a eu des chaînes de production où parfois il y a 1000 fournisseurs pour une usine, si l'administration fiscale doit aller enquêter dans chaque fournisseur et comprendre quelle est la contribution de chacun à la chaîne de valeur, et est-ce qu'il avait vendu, pas vendu, fait du stock, fait des pertes, c'est quasiment infaisable. Et donc, tel un Uber avant l'heure, il y a un fonctionnaire français qui dit « Je vais transformer chaque entreprise en auxiliaire du fisc, parce que chacun va me déclarer ce qu'il achète et ce qu'il vend, et puis je vais réconcilier tout ça, et j'aurai un tracking de la chaîne de valeur complète. » Mais sans la TVA, je vous jure qu'il aurait été difficile de prélever l'impôt dans l'industrie des Trente Glorieuses. Sans la sécurité sociale, je ne suis pas sûr qu'il y ait les Trente Glorieuses. Sans l'école de Jules Ferry, je ne sais pas si on a la même révolution industrielle. Et donc, à chaque époque, il faut aussi des institutions qui répondent à ce qui se dessine et qui sont capables d'épouser le mouvement pour y restaurer de l'intérêt général, du pouvoir pour les citoyens. Là, par exemple, on est embêté parce qu'on ne sait pas trop attraper l'impôt, Google, Facebook et les autres. Mais c'est aussi parce qu'on est dans un imaginaire fiscal qui est celui d'avant. C'est-à-dire on pense que la valeur, c'est dans une usine et qu'après, si on la prend sur l'usine, on arrivera à l'attraper. Et aujourd'hui, la valeur, elle est au lieu, elle est dans l'écran, elle est au lieu où vous cliquez. Elle est au lieu où vous vivez une expérience. Et donc, on patche sans arrêt. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, on a inventé le cycle commercial complet. On a inventé des tas de concepts pour dire, bon, d'accord, ça ne se passe pas complètement chez vous, mais ça part de vous et j'attrape la suite. Alors qu'il faudrait inverser totalement la logique et dire, je mets une taxe à l'endroit où les gens consomment. Et au moment, et dans le produit où ils consomment un service... Et je me débrouille pour l'attraper. Ils se répartiront entre eux pour trouver qui paye. Alors, parce que je vais en arriver à ce qu'on essaye de faire dans l'État, moi je crois qu'il y a quand même trois constantes assez simples. Il y en a plus. Hein. On pourrait vous parler de la loi de Moore et du fait que ça, c'est pas rien. Tous les 10 ans, les ordinateurs sont 10 fois plus puissants qu'avant. Et donc, on change de monde industriel tous les 10 ans. Quoi. Mais il y a 3 règles qui me semblent particulièrement importantes. Il y a la puissance de la multitude, c'est le titre d'un bouquin que j'ai écrit il y a 3 ans, L'âge de la multitude. Regardez, bon moi par exemple, j'avais la chance, j'étais déjà en charge du numérique dans une maison d'édition quand est née Wikipédia. J'y ai pas cru. J'ai dit c'est impossible de faire une encyclopédie sans un très très grand rédac-chef, il faut un Diderot ou un d'Alembert pour faire une encyclopédie, etc. Bon, ben là, on a eu la plus grande encyclopédie de l'histoire de l'humanité, plus de 100 fois plus grande que tout ce qui avait jamais existé, dans des langues qui n'avaient jamais eu d'encyclopédie, le swahili, le breton. Et en tout cas, les 10 premières années d'existence de Wikipédia, il y avait 8 salariés. Et c'est nous, donc, qui l'avons écrite, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que c'est une sorte de truc à plat. Le design des règles d'interaction, des règles de gestion des controverses, des règles de sélection de l'article qui est retenu, etc., est un travail de titan que d'ailleurs Wikipédia travaille tous les ans, ça change un peu. Quoi. C'est pas du tout trivial. Il n'y a qu'à lire les forums à la fin des articles de presse pour voir que la multitude, ça ne fait pas toujours de l'encyclopédie. Mais quand c'est bien travaillé, voilà, nous sommes capables collectivement de créer Wikipédia. Mais pas seulement ça. Quand on regarde de près, nous créons la valeur de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple, parce que parfois c'est de la contribution directe, comme dans Wikipédia, parfois c'est nos traces d'utilisation, parfois c'est des données qu'on laisse derrière nous, parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Oui, Google, j'aime bien raconter ça, parce que là aussi je suis assez vieux maintenant pour me souvenir, pour avoir vécu le début. Au début, certains s'en souviennent peut-être, il y avait le principal moteur de recherche dans Internet, c'était Yahoo. Et Yahoo payait des étudiants qui lisaient les quelques pages web, les quelques dizaines de milliers de pages web de l'époque, on n'était pas encore aux milliards d'aujourd'hui, et qui les résumaient à la main, et qui les indexaient à la main, et qui les rangeaient dans une arborescence. Et nous, les Européens, on disait « Ah ah, tout ça c'est bien ringard, on va faire du text mining, on va faire des robots qui lisent les pages et qui vont les compacter et les ranger. » Et le trait de génie de Google, c'est de se dire « Mais en fait, elles sont déjà lues ces pages. Elles sont lues par les internautes. Et ces internautes, ils ont déjà laissé une trace, ils ont fait des liens hypertextes. Et on a un algorithme mathématique, ça s'appelle les chaînes de Markov, qui en fait modélise ce qui se passe si vous plongez sur le web au hasard et vous cliquez au hasard, alors vous cherchez Jean-Daniel Reignante, vous cliquez sur le mot Jean-Daniel Reignante quand il apparaît, et on compte, après un nombre infini de coups, où est-ce qu'il y aurait le plus de monde, et puis le deuxième plus de monde, le troisième plus de monde. Et donc Google, c'est nos liens hypertextes qui ont fait le moteur de recherche de Google. C'est la somme des activités conscientes et intelligentes de millions d'individus, extraite grâce à un algorithme très classique et très connu en finance depuis déjà un siècle. Donc, et quand on regarde de près, en tout cas c'est ma thèse, dans la plupart de ces business numériques, le cœur de la valeur du projet, il est fourni par la multitude. J'ai pris le mot multitude parce que peuple en français, ça parle de la masse. Et là, c'est plutôt une somme d'individus désirants en interaction. On fait court. La deuxième grande révolution, c'est la donnée. Là aussi on peut faire très vite, mais retenons qu'on est d'abord en train de fabriquer une empreinte numérique du réel. C'est-à-dire, s'il y a bien une tendance de prospective, c'est qu'un jour il y aura une image numérique de tout. Combien nous sommes dans cette pièce, qui est-ce qui s'agite, qui est-ce qui s'endort, quelle est la température, etc. Ça penche vers ça, quoi. et que quand on possède un modèle numérique, et ben on est très puissant. On est très puissant d'abord, là aussi on peut partir de choses très triviales. Une semaine de travail d'un data scientist, s'il trouve un algorithme qui augmente de 7% l'efficacité d'un contrôle fiscal, il fait gagner quelques milliards d'euros par an au pays. Si on augmente de 3% une chaîne logistique, ben c'est des millions de tonnes de déchets de moins dans les poubelles. De toute façon, l'Occident a un rapport avec le modèle mathématique qui remonte à Galilée. Et chaque fois qu'on a su mettre en modèle, on a su créer de la puissance d'action. Pas toujours de la puissance stratégique, mais de la puissance d'action. Et là, on est en train de mettre le monde entier en données numériques. Et peut-être en croisant les deux règles, souvent, ces gens du numérique, ils ont des stratégies de plateforme. Alors là aussi, c'est souvent un peu contre-intuitif. Mais vous avez tous, enfin pas tous, mais on a souvent un exemple dans la poche. Quand Steve Jobs invente l'iPhone, il dit, t'as vu, il dit à ses équipes, vous avez vu, on a fait un truc génial, une interface tactile, une puissance de calcul, ça fait des photos, ça se géolocalise, on va faire des applications géniales là-dedans. Et c'est une des rares fois où il a écouté son conseil d'administration, les gens lui disent, non, ne les fais pas toi-même. Laisse tous les développeurs du monde faire des applications là-dedans. Donc Apple a développé les outils pour que les programmeurs puissent faire des applications là-dedans. Et il leur a dit, venez dans le magasin. Je ne prendrai que 30% du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il a 1 million d'applications là-dedans. Donc si on réfléchit un peu, je n'ai pas fait les comptes, mais c'est peut-être 1 million d'années ingénieurs qui ont travaillé pour enrichir Apple. C'est quand même une position stratégique assez intéressante pour eux. Et en plus, ils n'ont pas l'inconvénient de devoir choisir qui va gagner. Ils disent, venez, essayez, que le meilleur gagne. Je prendrai 30% à tout le monde et donc aussi aux gagnants. Mais c'était très contre-intuitif de dire j'ai un truc génial, je saurais faire des trucs géniaux avec, mais je ne vais pas le faire. Je vais dire aux gens, venez chez moi, enrichissez-moi, enrichissez-vous, développons des trucs ensemble, surprenez-moi, dépassez-moi, etc. Mais quand on regarde de près, ils font tous ça. Facebook, qui est illustré ici par Mark Zuckerberg, c'est aussi des milliers d'applications qui utilisent le graph Facebook, les vidéos partagées par les gens dans Facebook, les likes, etc. Donc eux, ils ont mis à disposition cette ressource. Et là aussi, quand on y regarde de près, les stratégies de plateforme sont souvent au cœur des stratégies numériques. Alors, si on croit à tout ça, nous, dans l'État, alors évidemment, on travaille là où on est, avec l'équipe qu'on a, dont un membre est aussi avec nous aujourd'hui. On ouvre un premier ensemble de chantiers, ça ne règle pas tout, il y a plein de grandes questions. Mais alors, d'abord, moi, ce que je pousse dans l'État, et c'est très important, c'est de dire aux gens, attention, le numérique, c'est pas la dématérialisation. Si on essaye de faire une open university, on sait que le numérique, c'est pas juste des cours en vidéo. Je l'illustre en disant, vous voyez, ça, c'est une banque. Donc, dans une banque, tout est dématérialisé maintenant. On ne travaille que sur écran et on ne manipule que des abstractions. Il n'y a pas une seule banque qui soit prise il n'y a pas une banque numérique. Et les gens du numérique n'admirent aucune banque. Les banques sont restées sur leur modèle d'avant. Elles essayent de vous prendre votre pognon avec des agios et elles disruptent pas, elles créent pas de valeur, elles innovent pas. C'est pas numérique. Et puis lui, Tesla, il fait des voitures et tout le monde sent bien que c'est numérique. Il fait pas que des voitures. Hein. Elon Musk, il fait les satellites pour les touristes. Vous l'avez peut-être vu là, le satellite qui revient à son point de départ, la fusée qui réatterrit. Il fait l'Hyperloop, donc un train à vitesse supraluminique qui ira entre San Francisco et Los Angeles. Et pour l'anecdote, pour ceux qui ont vu le film, c'est lui qui a inspiré les scénaristes de Iron Man pour faire le caractère de Stark dans le film. Donc le mec un peu mégalo qui vit dans un endroit dantesque et qui bricole tout le temps, il existe, c'est Elon Musk. Et là, on sent que c'est numérique. Donc les stratégies numériques, c'est une logique de l'action, c'est une manière de créer de la valeur, c'est une manière d'innover. Lui, il publie les codes sources de ses voitures en disant « si vous voulez en faire vous-même, faites-les ». Quand il fait l'Hyperloop, il dit « je mets les plans en ligne et que chacun et je vends aux enchères des kilomètres de rails et chaque entrepreneur qui le souhaite m'achète un kilomètre et le développe lui-même ». Enfin, il y a plein de logiques comme ça de l'action qui sont profondément numériques. Alors, je vais faire court, mais nous, on essaye de travailler. En tout cas, je vous ai sélectionné 2-3 directions parce qu'il y en a d'autres, mais d'abord, je pense que cette situation appelle une vraie philosophie différente de la manière de gouverner. Une philosophie plus transparente, plus ouverte à la concertation, plus ouverte à la contribution. Et on y reviendra dans un instant, mais je pense que d'abord, c'est les conditions de l'efficacité aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas le temps de cette concertation, de cette écoute, de ce travail collaboratif, ça devient très, très, très difficile de faire face aux défis qui nous, bah, de la bioéthique, aux défis de l'environnement, aux défis de la disparition du travail comme nous l'avons connu, d'une part. Et puis en plus, pour parler, donner quand même une concession aux dystopiques autour de la table, ce numérique va concentrer tellement de pouvoir entre si peu de mains que, par exemple, je le sais parce que je les ai vus dans la Silicon Valley, ce machine learning, la façon Watson, dans 2-3 ans, ce sera vendu as a service par les nouvelles startups qui arrivent et qui diront « Envoyez-moi vos données, payez-moi $10 et je vous fais l'extraction, la clusterisation, je vous en fais l'interprétation et je vous vends le résultat. » Ça va se commoditiser comme ça. Et donc, vous aurez forcément, dans un cabinet ministériel quelconque, un gars qui va ramasser tous les chiffres du chômage et qui va s'inventer sa petite politique parce qu'il se croira plus malin que les autres et qui dira « On n'a qu'à arrêter d'aider les 20% de chômeurs les moins bien barrés et comme ça, l'argent public sera utile à quelque chose et ça marchera mieux. » C'est fatal, c'est humain. Le mec, il a tout le pouvoir de réfléchir, s'il peut tester toutes ses hypothèses, s'il peut prendre des décisions. Et donc, il faut mettre des boucles de rétro-contrôle. Il faut mettre des temps de concertation bien plus grands qu'avant parce qu'aujourd'hui, la puissance d'agir de ceux qui ont le code est bien plus grande qu'on n'a jamais eu. Quoi. Et donc, le principe du gouvernement ouvert, pour nous, ça commence par beaucoup de choses. Ouvrir les données publiques. Alors, je vois que j'ai presque fini ma demi-heure, donc j'accélère encore. Parce que, ouvrir les données publiques, c'est encore un chapitre fascinant. Parce que d'abord, c'est un devoir démocratique. On laisse les citoyens faire d'autres points de vue que les nôtres. Reprendre nos statistiques, les recompiler autrement, nous défier, nous challenger, vérifier nos hypothèses. Alors j'aime bien dire que c'était presque, enfin, nos pères fondateurs, ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, l'avaient déjà demandé. Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 15, la société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16, le citoyen est en droit de constater par lui-même la nécessité de la dépense publique, l'assiette, le taux, l'emploi et l'utilité de l'impôt. C'était demandé par les révolutionnaires. Juste, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne savait pas lire et écrire. C'était techniquement beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Bon, mais il n'y a pas que ça. En fait, quand on ouvre de la donnée, on crée aussi des effets assez sidérants. Et je pourrais vous en parler longtemps sur les biens communs, sur la création de valeur. Mais plutôt que d'en parler longtemps, je prends un très vieil exemple. Il a 2 siècles, le cadastre. Et ben dans les pays où il n'y a pas de cadastre, d'abord on a du mal à prélever l'impôt, demander aux Grecs ce qu'ils en pensent, on a du mal à avoir un État en fait. Mais surtout, on n'a pas de classe moyenne. C'est un frein connu et documenté par de nombreux économistes au développement des pays en voie de développement. Si vous avez plein de gens très pauvres qui ont tous un bout de terre et qui n'ont pas de cadastre, ils ne peuvent pas emprunter en fait, ils ne peuvent pas hypothéquer leurs biens pour investir. Et donc on reste avec son lopin de terre qui n'a pas d'existence légal, donc qui n'a pas d'existence économique et donc qui n'est pas fongible et avec lequel on ne peut pas investir. Et donc, vous voyez, l'effet de la donnée publique, quand elle circule, c'est qu'elle permet aussi d'harmoniser les stratégies des acteurs, en fait. Elle permet aux gens de se rencontrer, d'entrer en commerce au sens noble du terme. Et donc ça, je vous le raconte sur le cadastre, mais c'est vrai sur les horaires des trains, c'est vrai sur les horaires des marées, c'est vrai sur le nombre d'habitants dans une ville, c'est vrai sur la pollution des nappes phréatiques. Enfin, il y a plein de données qu'il faut mettre en circulation parce que ça va permettre aux gens de faire des choses avec, et pas seulement des startups, comme on nous l'a souvent raconté, même si c'est vrai aussi. Après, on peut ouvrir les décisions. Alors, c'est vrai que le même gouvernement, il est capable de sortir de manière faiblement concerté une loi travail, mais en revanche il a fait quelque chose d'exemplaire. Là, c'était le projet de loi porté par Axel Le Maire sur le numérique, et là elle a eu le courage, parce que c'était une première quasiment mondiale, hein. Les Islandais avaient fait une constitution concertée, mais là on est peut-être allé encore plus loin parce qu'on a travaillé un texte. Alors pour ceux qui connaissent la machine, c'est dur de travailler un texte. Il y a des réunions interministérielles, tout le monde s'engueule. Après, il y a les juristes qui repassent derrière. Après, on va au Conseil d'État, on se fait engueuler, on réécrit. Et quand on avait fini, on a dit, pendant 3 semaines, on le soumet à consultation. Et on a construit un dispositif de traçabilité. C'est-à-dire, la ministre n'a pas dit, et ça aurait été une erreur, je pense, elle n'a pas dit, c'est référendaire et vos meilleures idées vont passer dans la loi. Le Parlement a son rôle. Mais elle a dit, je promets un truc, c'est que tout ce que vous écrirez, ça se verra. Et le nombre de gens qui auront aimé ce que vous avez écrit, ça se verra. Et donc, je serai sommé de me justifier si je ne prends pas vos idées. En 3 semaines, vous avez les chiffres là. Il y a eu 21 000 participants. qui ont fait 8500 contributions et qui ont voté 150 000 fois. Et nous avons repêché là-dedans 90 modifications du texte, dont 5 articles entièrement nouveaux, et un qui peut être cher d'ailleurs à vos sujets, et qui moi j'aime beaucoup personnellement. Donc la France sera un des premiers pays au monde à écrire un droit à la transparence des algorithmes qui impactent nos vies. En tout cas, ça a été voté en première lecture. Donc le texte dit que lorsque les citoyens subissent une décision algorithmique qui a un impact sur leur vie personnelle, je vous donnerai un exemple après, ils sont fondés à exiger que l'administration explique comment marche l'algorithme. Alors un exemple qui était très cité dans les débats, c'était l'admission post-bac. Donc vous l'avez peut-être vécu, ou vos enfants. Aujourd'hui, quand vous allez à l'université, on vous dit tu peux aller à Orléans, toi tu peux pas aller à Orléans, tu vas à Tours. Enfin bon, c'est la même là, je crois. Et il n'y a pas grand monde qui est capable de savoir si c'est un tirage au sort, si c'est en fonction des notes au bac, si il y a du regroupement familial, si ça dépend de la distance kilométrique à la résidence des parents. Et même d'ailleurs, la plupart des gens de l'éducation nationale ne savent pas trop non plus. Et donc, il y aura obligation de dire... Alors d'abord, on va devoir en fait refouiller nos systèmes d'information pour comprendre comment marche l'algorithme. Parce que là, il n'y en a pas un seul, en fait. Il y a des sommes de décisions à plusieurs endroits dans le système qui aboutissent à un résultat. Et on sera obligé de le documenter et de l'exposer et de dire aux citoyens qui en feront la demande comment ça a marché. Je crois que c'est une sécurité très grande pour le monde qui arrive. Après, on peut s'ouvrir aux contributions. Alors ça, c'est génial aussi. Mais j'accélère. Mais je vous raconte quand même. Vous me voyez hilar sur la photo, là. En France, on a un mal fou à faire une base nationale de la géolocalisation de toutes les adresses postales. Alors en gros, le 16 rue suggère quelles sont ses coordonnées GPS. Évidemment, pour le centre de Paris, ça va. Mais pour les villages périgourdins, il en manque toujours. Pourquoi il en manque toujours ? Parce qu'on a 400 000 nouvelles adresses par an qui sont gérées par les 36 000 communes. Donc le temps que ça remonte, ça passe par la préfecture, etc., etc., ça arrive à l'IGN, il faut le mettre dans un vieux système d'information, ça prend 2 ans. Bon, c'est un peu embêtant pour les SAMU, pour les pompiers, pour les urbanistes, pour les gens qui posent des câbles, pour les gens qui mettent de l'électricité, c'est embêtant pour plein de gens. Et on a un mal fou à maintenir ce système. Donc là, on a de la chance en France, il y a une communauté très vivante qui s'appelle OpenStreetMap, qui sont une sorte de Wikipédia, mais de la cartographie. Ils sont plus de 10 000 en France, avec des smartphones, à faire une carte de France géniale, qui est bien meilleure que Google Maps, où il y a l'essence de tous les arbres du parc du château de Versailles, les numéros de série des panneaux d'éclairage public dans pas mal de grandes villes de France, parce que c'est un peu des forcenés de la carte, quoi. Bon, on a fait une alliance entre l'IGN, la Poste et OpenStreetMap en disant on peut s'organiser ensemble et aller chercher votre contribution pour faire un bien commun, accessible à tous. Eux, ils nous ont rajouté une règle en disant accessible à tous ceux qui sont prêts à prendre, à reverser au pot commun ce qu'ils feront avec. L'État aussi peut se penser comme une plateforme. Et on n'est pas obligé de faire une plateforme uniquement pour prendre 30% du chiffre d'affaires à des gens qui auront bénéficié de nos ressources et qui sont venus travailler chez nous. On peut penser une plateforme pour délivrer du service public, pour délivrer de l'autonomie, pour émanciper des acteurs, etc. Et donc, c'est en train de devenir pour nous à la fois une stratégie technologique. Donc, s'il y a des informaticiens dans la salle, en fait, on essaye que toute notre informatique puisse être automatiquement appelée par d'autres logiciels. Donc, je sais pas comment le dire. Ça s'appelle des Application Programming Interface. Quand vous avez une base de données, c'est bien. S'il est possible à un ordinateur de l'interroger automatiquement, c'est mieux. Et donc, on est en train de redesigner toute notre informatique pour qu'elle soit, que chaque base de données de l'État puisse servir à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été faite au début, dans le respect, bien sûr, de secrets légaux très importants, la vie privée qui est bien défendue par la CNIL, mais aussi le secret industriel, la sécurité nationale, la sécurité de nos systèmes d'information. Mais c'est quelque chose d'assez essentiel. C'est une stratégie technologique et c'est aussi une manière de rendre le service. Et ça, c'est très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure du taxi. Donc, je vous ai parlé de l'horrible régulation qui pèse sur la profession de taxi. Donc, quand arrivent les VTC, là, les Uber, d'abord, la France se dit il faut pénaliser aussi Uber, quoi. Donc, on va, par exemple, leur interdire de livrer une course en moins de 15 minutes. C'est le Conseil d'État qui a interdit ça, mais c'était la première intention. Après, on se dit, je vais faire une application pour remplir les taxis comme Uber en a fait une pour remplir les Uber. Mais j'imagine mal l'État, puis c'est pas vraiment son rôle, se mettre à faire des applications pour remplir les taxis. En revanche, on a décidé, là c'est le législateur qui nous l'a demandé, bah précisément de faire, ça a été pas long et pas cher, et votre argent a été bien employé. Deux développeurs en 6 mois, ça coûte 200-300 000 euros, ce dont je vous parle, ont fait le dispositif qui permet de géolocaliser les taxis, comme sont géolocalisés les Uber, et d'ouvrir cette donnée pour que toutes sortes d'innovateurs puissent faire des services pour remplir les taxis. Alors au début, ça commence comme toujours avec une sorte de truc qui ressemble beaucoup à Uber, où je vais appeler un taxi sur mon smartphone. Mais on est en train de voir arriver les pages jaunes qui disent « Et si je mettais un bouton « J'y vais en taxi » dans les pages jaunes ?» On voit arriver Facebook qui dit « Mais peut-être dans le chat Facebook, je pourrais proposer aux gens qui sont en train de discuter puis d'organiser une fête de se retrouver en taxi. » Et on va voir propager comme ça la possibilité d'appeler un taxi dans toutes sortes de trucs qu'on n'a pas imaginé au début. Et vous voyez, c'est une sorte de nouvelle logique de l'action publique. Au lieu de réguler, ou au lieu d'interdire, ou au lieu de faire nous-mêmes, on en émancipe certains, on libère des ressources pour l'action, des ressources qui vont permettre aux gens d'aller beaucoup plus loin. Alors dans toutes ces stratégies d'État plateforme, on est en train aussi de prendre un sujet peut-être encore plus important, c'est l'identité. Donc on va développer, et il sera disponible dans quelques semaines maintenant, un bouton qui permet de s'authentifier comme vous utilisez sûrement parfois le Facebook Connect ou le Gmail Connect. Et c'est très embêtant, parce que, enfin c'est pas embêtant, vous le faites si vous voulez, mais quand vous utilisez ces identités-là sur Internet, en gros vous dites à Facebook tout ce que vous êtes en train de faire. Donc nous on en fait un qui est neutre, c'est-à-dire d'une part il prend aucune trace sur les utilisateurs, et d'autre part il va vous permettre d'interroger l'État, mais d'une manière où... Seulement à la demande, vous pourrez dire « D'accord, j'accepte que l'administration fiscale transmette cette information-là. » Donc c'est ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle. Donc on fait à la fois une identité qui soit neutre et on commence à architecturer la circulation des données dans l'État selon un principe où c'est le citoyen qui décide « Je veux bien que la Poste, elle sache ça sur moi. » Ou « Je veux pas. » « Je veux bien donner mon quotient familial, mon revenu de référence, mon adresse fiscale. » Mais où à chaque fois, ce soit l'usager qui décide ça je l'accorde ou ça je l'accorde pas. Et ça fait partie, c'est pour ça que je vous disais, c'est de la politique, c'est ni bien ni mal. On peut utiliser le numérique pour faire de gigantesques bases de données où il y a tout sur Jean-Daniel Reinhorn, ou on peut utiliser le numérique pour lui permettre à tout moment de dire ça je veux bien, ça je veux pas, ça je veux bien, ça je veux pas, ça je partage, ça je partage pas. Et pour le réussir, il faut maîtriser les codes de tout ça. Il faut un design simple, il ne faut pas que ça devienne un formulaire de 1000 pages chaque fois que vous voulez un service. Donc il y a tout un travail d'informatique. Bon, je vais faire vite, je dirais juste que dans nos stratégies d'action, après on a, disons, un troisième chapitre, c'est faire rentrer le numérique dans l'État, sa philosophie, ses méthodes, ses bons hommes. Et nous, on pousse beaucoup un truc qui a l'air très bête, mais qui est aussi de la révolution numérique, c'est les méthodes agiles. Ça peut avoir l'air très bête, mais en gros, on rate presque tous nos projets informatiques. On les rate parce qu'en général, on sort d'un monde, l'ancien monde industriel, où d'abord des chefs font des spécifications. Donc ils disent il faudra que ça fasse ci, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, ça fait ça, ça tac, tac, tac. Puis après, on fait un cahier des charges, puis après, on fait un appel d'offres, puis après, on laisse faire un sous-traitant, puis après, on vérifie s'il a bien fait son travail. Et ça coûte 10 millions d'euros. Et en fait, les startups, elles ont inventé une méthode un peu plus simple. C'est on fait un premier jet, puis on met un prototype en ligne, et puis on demande à des utilisateurs de venir travailler dedans, puis on les écoute, puis on améliore au fur et à mesure, En discutant avec des utilisateurs réels. Et en fait, l'histoire prouve, nous on l'a fait 19 fois, que ça peut coûter 10 fois moins cher, et qu'en plus, en général, le produit ne rate pas, parce qu'il arrive forcément à créer une valeur. Et c'est des méthodes, on met un effort assez considérable pour les faire rentrer dans les pratiques habituelles de l'État, mais bien sûr, ça viole toute la philosophie institutionnelle de la machine. C'est-à-dire, vous dites au chef, laissez l'ingénieur discuter avec les clients et vous dire ce qui est bon, et vous, on vous montrera à la fin ce que ça a donné et vous nous direz si c'est bien ce que vous vouliez. C'est évidemment très perturbant. Et en plus, on dit aussi, bien sûr, on mettra toutes les sécurités requises, mais au fur et à mesure. Parce que d'abord, il faut prouver que ça intéresse quelqu'un. Et si ça intéresse quelqu'un, alors là, ça mérite de réinvestir. Donc, je ne sais pas si ça vous concerne, mais c'est important. Et puis, l'autre sujet, c'est de faire rentrer les sciences de la donnée. Les sciences de la donnée, ben, évidemment, il peut y avoir un côté obscur de la force. Je fais des contrôles fiscaux... avec une probabilité de 95% de chances d'avoir raison, je sais pas quoi, j'optimise mes dépenses. Bon, il y a un côté qui peut faire peur, D'où de nouveau l'OpenGov. Il y a des côtés où la data à elle seule fait des régulations fascinantes en émancipant les acteurs. J'aime beaucoup cet exemple. Là, en gros, parce que j'ai affiché deux données. La vitesse est limitée à 25 miles à l'heure et toi, tu es à 27. Et parce que je l'ai fait d'une certaine manière, c'est affiché en public à l'instant où je suis en excès de vitesse. Bah, sur ce pont-là, il y a des milliers d'automobilistes qui freinent juste parce que j'ai judicieusement distribué deux données. On mettrait sur les écrans des médecins, tu prescris le Mediator si tu veux, mais sache qu'il y a un taux de surprescription, c'est 10 fois trop élevé. À l'instant où il fait l'ordonnance, peut-être que tout seul, ils auraient dit, tiens, je vais mettre un peu moins de Mediator. Et on n'aurait pas eu besoin de débattre pendant des heures sur le contrôle médicalisé ou le contrôle comptable de la dépense de santé. Peut-être, j'en sais rien. Et peut-être, maintenant je vous raconte deux histoires et j'ai fini, mais puisqu'on a pas mal parlé de Dr. Watson, lui c'est le pauvre Kasparov. Et comme vous le savez, il a précédé de 15 ans votre jeune sud-coréenne, puisque lui il a été battu par Deep Blue, qui lui-même était l'ancêtre de Watson. Il dit que ça a été truqué, hein, que Deep Blue était éduqué par son pire ennemi. Donc ça, vous le savez. Sauf qu'après, 2-3 ans plus tard, il a fait autre chose et il a écrit un livre qui raconte cet exemple-là qu'il a appelé la plus belle partie du monde. En fait, il a dit, bon, bah, c'est fini, les machines battront les humains, on va faire autre chose, on va faire... Non mais pardon, c'est pas ça que je voulais raconter. On va faire des tournois humain contre machine versus humain contre machine. Non mais il a fait autre chose. Un jour, il a dit, je vais faire une partie seul contre tous. Donc Kasparov contre le reste du monde. Donc traditionnellement, quand on fait ça, eh ben, le grand maître, il bat le reste du monde en quelques heures. Paf, 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 il passe. Et là, il a dit, bon, on va faire un peu mieux, on va laisser le reste du monde réfléchir. Donc il a pris 4 jeunes grands maîtres, mais moins forts que lui, mais quand même jeunes grands maîtres. Et entre chaque coup de la partie, les internautes avaient le droit de débattre entre eux. Et puis les grands maîtres discutaient avec eux, puis choisissaient le meilleur coup proposé par la multitude. Et ça a fait, il a gagné quand même, mais ça a fait, d'après lui, la plus belle partie du monde. Parce que les coups étaient, ils avaient toute l'intelligence collective de ceux qui disaient, mais pourquoi on ne regarderait pas ça, pourquoi on n'essayerait pas ça, pourquoi... Et en même temps, il y avait quand même assez, enfin, il y avait l'institutionnalisation de l'intelligence collective, il y avait le dialogue avec quelques patrons, là, les 4 grands maîtres. Mais allez voir le bouquin, c'est très intéressant, et ça nous rappelle sans arrêt que l'intelligence de la multitude, en général, elle s'exprime grâce à une ritualisation et grâce à une institutionnalisation. Quand on a dit en France que c'est le peuple qui est jury dans la justice pénale, on n'a pas fait du lynchage. On a organisé le débat contradictoire, le secret de la délibération, l'avocat de la défense. Il y a eu toute une mise en scène pour qu'on puisse rendre le jugement du peuple. Ça n'est pas le lynchage. Donc l'intelligence collective, ça existe vraiment, mais il faut savoir aller la chercher. Voilà, et je terminerai pour reprendre plusieurs des histoires dont je viens de vous parler en racontant un projet dont nous, on est très fiers, parce que justement, il raconte plein de choses dont je viens de vous parler. Donc c'est un produit qui est en ligne, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle labonneboite.pôleemploi.fr et qui vous prédit des entreprises qui vont très probablement bientôt recruter sur le métier qui vous intéresse, dans la ville qui vous intéresse. Alors, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça commence comme ça, on discute avec le directeur de Pôle emploi, Jean Basser, et on lui dit, tu sais, dans tes équipes, tu as forcément des mecs très intelligents qui ont les bonnes idées qu'on cherche. Tu devrais aller chercher tes intrapreneurs. Et il nous croit, le con. Et donc, il dit, appel à idée, je promets que les 2 meilleurs, je les finance. On les fera. Et vous aurez une décharge horaire, et je vous trouverai les moyens, on fera vos produits. Il y a un agent de Pôle emploi de Hayange, c'est chez moi en Moselle, qui dit, c'est quand même un peu bête, on passe notre vie à proposer des offres d'emploi aux demandeurs d'emploi, et 75 à 80% du marché de l'emploi, il se fait sans offre. Et la plupart du temps, c'est des candidatures spontanées. Ou des réseaux. On a entendu dire par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui avait un poste à cet endroit-là. Quoi. Et donc, les gens de Pôle emploi à Hayange, au guichet, ils le savent qu'il y a plein d'entretiens qui se terminent en disant « Je suis désolé, j'ai rien pour vous. » Et donc, c'est l'agent qui dit « Et pourquoi on prédirait pas les boîtes qui vont recruter ?» Donc là, il fallait faire des data science. Mais justement, on a une petite équipe de data scientists. Comment on fait pour prédire une entreprise qui va bientôt recruter? Alors là, on avait une chance. Notre vieil état jacobin qui n'oublie rien jamais. Il y a un petit document administratif qui n'est pas du tout une privation de liberté. D'ailleurs, c'est la déclaration préalable à l'embauche. quand une entreprise recrute, elle doit le dire à Pôle emploi. Elle remplit un formulaire. En tout cas, tous les mois, elle fait sa déclaration préalable à l'embauche. Et donc, Pôle emploi, ils ont 10 ans de déclaration préalable à l'embauche, avec plusieurs dizaines de millions d'embauches par an depuis 10 ans. Quand vous avez ça, éduquer un petit modèle prédictif pour repérer pas forcément toutes les boîtes qui vont recruter, mais des boîtes qui, de manière presque certaine, vont recruter, ça n'est pas très difficile. Donc on a fait le petit algorithme d'analyse prédictive. Comme on maîtrisait les méthodes agiles, on a développé le produit pour moins de 200 000 euros en 4 mois. Et on l'a mis en test, et puis on a vu que ça marchait. Et pour l'anecdote, comme on applique les principes d'open government et d'apification, de government as a platform, toutes les données qu'on avait mises là-dedans, on les a ouvertes pour que d'autres puissent, le cas échéant, faire quelque chose avec. Et vous avez peut-être vu dans la presse, il y avait des grandes affiches dans le métro il y a un mois sur Paul Duhan, le jeune data scientist qui va terrasser le chômage. C'était des grandes affiches jaunes là. Mais Paul Duhan, on le connaît très bien, et il utilise les données de la bonne boîte en fait. Et c'est très bien. C'est-à-dire, non seulement on a fait un produit qui marche, mais on a ouvert la possibilité pour plein d'autres gens de faire d'autres approches et d'autres projets. Voilà, j'ai fini. Mais je voulais juste vous redire, comme j'ai dit en introduction, ça je l'ai rajouté pour vous. C'est pas ni une utopie ni une dystopie, c'est de la pure politique. Il y a des rapports de force, il y a des intérêts en présence, il y a des stratégies qui marchent, il y a des stratégies qui marchent pas. Il y a des problèmes dans ce que je vous ai dit. Quand je vous dis, je plaide moi pour qu'on ouvre au maximum les données qui sont dans l'informatique publique pour que d'autres gens fassent des choses avec. C'est possible si on sait regarantir les libertés patiemment construites au fil du siècle. La protection de la vie privée, du secret industriel, du secret médical. Et ça n'est pas impossible, mais il faut s'y mettre. Il faut savoir si un algorithme d'anonymisation a vraiment anonymisé. Il faut savoir appliquer nos vieilles règles dans un monde beaucoup plus mouvant et beaucoup plus mobile. Et donc voilà, je pense que ça dépend de nous. À la question, est-ce que utopie ou dystopie, ça dépend de nous.